commencer par l'introduction. Ben, l'introduction, c'est l'auteur. Hein, après tout, c'est bien des livres, mais avant qu'il y ait des livres, il faut qu'il y ait un éditeur. Et l'éditeur, c'est Vuibert, qui est une maison parisienne qui est spécialisée en histoire, enfin en sciences en général, et qui a développé récemment l'histoire des sciences. Il y a un deuxième éditeur qui est également présent ici, c'est un éditeur, lui, qui est bruxellois, qui est belge, et qui est Jourdan, parce qu'il y a un des livres qui est publié en Belgique, c'est celui-là. Bien. Alors, je reviens à Vuibert. J'ai proposé à Vuibert de faire une histoire des sciences. J'ai eu la chance de pouvoir le convaincre, parce que ce n'est pas un sujet tout à fait évident. Vous remarquez d'ailleurs qu'il y a moins de public pour l'histoire des sciences qu'il n'y en aurait pour certains romans, par exemple. Mais enfin, il a accepté, et j'ai donc fait une histoire des mathématiques. Puis j'ai continué avec l'histoire des techniques, et puis avec l'histoire de la physique, de la chimie, etc. Ce qui fait que je peux dire maintenant, et j'en arrive au développement principal de mon petit exposé, puisque j'en arrive à l'objet de mon travail, je peux dire maintenant, en 2009, que j'ai publié une histoire générale des sciences. Et je peux même dire, parce que le mot général, ça ne veut pas dire grand-chose, je peux même dire qu'il s'agit d'une histoire complète. Alors elle est complète à deux points de vue. Elle est complète parce que j'ai commencé à la préhistoire. C'était difficile de commencer plus tôt qu'à la préhistoire. C'est étonnant, on n'a pas de données textuelles par définition sur la préhistoire, mais il y a quand même moyen de parler de ce qui n'est pas encore la science, mais ce qui est déjà la technique à l'époque de l'homme préhistorique. Et je termine chaque fois, pour chaque discipline, à la fin du XXe siècle. Donc c'est complet dans le temps, c'est également complet dans la mesure où j'ai balayé en quelque sorte les grandes disciplines scientifiques, c'est-à-dire mathématiques, physique, chimie, biologie, médecine et technique et technologie. Alors, il n'y a pas des sciences humaines, j'y travaille d'ailleurs, mais enfin, dans ceci, je voulais me limiter à ce que l'on appelle généralement les sciences exactes et naturelles. Plus populairement, on appelle ça les sciences dures, pour les opposer aux sciences tendres, qui sont les sciences humaines. Il n'y a pas d'histoire des sciences complète écrite par un seul homme ou une seule femme. Il y a bien sûr des ouvrages collectifs, mais ça n'a pas la même dimension et la même portée. Au XIXe siècle, il y a eu quelqu'un dont le nom m'échappe pour l'instant, parce que j'ai quelques difficultés avec les noms propres, comme vous pouvez l'imaginer. Je confonds parfois certains médecins et certains ingénieurs, je ne parviens pas à retenir tout ce qu'il y a dans mes livres. Au XIXe siècle, il y a eu un chercheur qui a fait une histoire de la médecine, une histoire des mathématiques, et si je me souviens bien, une histoire de la botanique, mais il n'a pas fait la totalité des sciences. Bon, c'est un détail, mais j'en suis relativement fier, puisque finalement, c'est quand même une réalisation. Alors, quand j'ai terminé ce travail-là, un éditeur bruxellois que j'ai déjà cité, qui est Jourdan, qui est l'éditeur belge dont j'ai parlé en début d'exposé, Alain Jourdan me dit, mais est-ce que vous ne pourriez pas refaire l'histoire des sciences, mais en vous limitant à la Belgique ? Moi, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, ça n'a pas de sens de faire l'histoire des sciences en se limitant à un pays, surtout à un petit pays, puisque la science n'est pas liée à une population, n'est pas liée à un peuple, n'est pas liée à une culture. On peut imaginer l'histoire de la musique en Belgique parce qu'il y a c'est du culturel. Moi, je ne voyais pas, je ne concevais pas la possibilité de faire une histoire des sciences rien qu'en Belgique. À chaque moment, je devais parler soit d'un Français, soit d'un Allemand, soit d'un Américain, d'un Japonais, que sais-je encore. Mais c'est un éditeur insistant. Il a insisté. Et les auteurs doivent garder de bonnes relations avec les éditeurs. Et j'ai fini par accepter. J'ai accepté à une simple condition. Je me suis dit, écoutez, moi, ce qui m'intéresserait éventuellement, ce n'est pas d'étudier l'histoire des sciences en Belgique, je viens de dire, ça ne me paraissait pas tellement justifié, mais ce qui m'intéresse, c'est d'examiner comment, dans un pays particulier, et il se fait que c'est mon pays, donc ça m'intéresse quand même un peu. J'étais moins enclin de faire ce travail pour le Danemark ou pour le Chili, mais pour la Belgique, ça me paraissait quand même intéressant de voir comment, dans un pays bien particulier, la science et la technique, parce que j'insiste beaucoup sur l'importance de lien entre science et technique, comment la science et la technique ont fonctionné, et en quelque sorte, ça me paraissait intéressant, à force d'y réfléchir, de réécrire. Bon, je ne suis pas Henri Pirenne, je n'ai pas écrit une histoire de la Belgique colossale comme celle de Pirenne, mais je me disais que c'était intéressant de réécrire l'histoire de notre pays du point de vue scientifique, d'autant plus que, là je le savais déjà, j'avais déjà fait la bibliographie, j'avais déjà fait les recherches en bibliothèque, d'autant plus que c'est assez peu couru. Il y a quelques, pas beaucoup, quelques histoires des sciences en Belgique, il y a quelques livres qui traitent de l'histoire de l'industrie, et bien sûr il y en a beaucoup sur la vie économique en Belgique, mais il n'y en a pas, donc là aussi il y a une espèce de singularité, il n'y a pas d'ouvrage qui étudie à la fois l'évolution des sciences et des techniques dans notre pays. Alors j'ai commencé par 1830, parce que je me disais c'est le départ, la révolution c'est le départ de la Belgique, et puis évidemment très rapidement je me rends compte que les institutions de 1830, notamment les universités, ont un passé parfois lointain, donc je suis remonté un petit peu dans le temps, et puis je me suis rendu compte d'une deuxième chose, parce que les universités ont été créées par les Hollandais, pendant la période hollandaise. Il y a l'exception un peu particulière de l'université de Louvain, mais enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, sauf si ça vous intéresse. Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte aussi qu'en 1830, 31, 32, 33, dans un mouvement de préoccupation nationaliste, dirait-on, tout à fait compréhensible pour une nation qui vient de naître, toute une série d'intellectuels belges s'intéressent aux grands hommes du passé. Les grands hommes du passé, évidemment, dans le domaine de l'art, faut-il vous le dire, l'importance d'un Rubens ou d'un Van Eyck ou des Bruegel pour l'histoire de la Belgique, l'histoire culturelle de la Belgique, mais aussi des hommes de science. Et j'ai donc dû, bien que je ne voulais pas le faire au départ, j'ai donc dû parler un peu de Vésale, qu'on a en quelque sorte redécouvert à cette époque-là, de Mercator, de Simon Stévin, de Ferdinand Verbist. Tiens, je vais parler de Ferdinand Verbist. Ça peut être intéressant de savoir que Ferdinand Verbist était un Belge. Ça, c'est déjà une qualité intéressante. C'était un Flamand, c'est pas mal non plus. C'était un Jésuite. On ne va pas faire de commentaires, mais enfin, c'était donc un Jésuite flamand. Et ce Jésuite part au XVIIe siècle. Je ne pourrais pas vous donner la date exacte parce que je n'ai pas tout mémorisé, mais il part au XVIIe siècle pour convertir les Chinois au christianisme, pour expliquer en Chine les mystères de la Sainte Trinité, enfin, toutes ces choses qui sont très importantes en Europe et qui sont absolument ignorées à cette époque-là par les Chinois. Il arrive en Chine, il est bien reçu par l'empereur, mais l'empereur lui dit, vous savez, ces choses-là ne m'intéressent pas tellement, nous avons, nous, Confucius, qui nous a dit tout ce qu'il faut faire en matière morale et religieuse, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment prévoir la position des planètes. Parce que mes astronomes, dit l'empereur, mes astronomes, ils se trompent tout le temps. Ils me disent que dans un mois, Mars va être là, et en fait, Mars est un peu à gauche ou un peu à droite. Et Ferdinand Verbist, qui était un jésuite du XVIIe siècle, c'est-à-dire quelqu'un de très ouvert, de très initié aux mathématiques, les mathématiques intéressaient beaucoup les jésuites, qui étaient très préoccupés par l'enseignement, y compris l'enseignement supérieur. Et donc il lui dit, ben écoutez, il n'y a pas de problème, moi je vais vous montrer comment on fait en Belgique, c'est-à-dire plus généralement, comme on dirait aujourd'hui, en Occident, ou dans les pays chrétiens, si vous voulez. Et effectivement, il explique aux astronomes chinois comment calculer la position, comment prévoir la position des planètes en se basant évidemment sur le système héliocentrique, le système de Copernic qui utilise cette idée qui a été révolutionnaire en 1543 de mettre non pas la Terre mais de mettre le Soleil au centre du monde. Et voilà que à la fin du XVIIe siècle, la Chine apprend les mathématiques, l'astronomie, la technique aussi, parce qu'il y avait des techniques d'observation belges, je dirais pas belges, je dirais européennes, parce que faut pas quand même exagérer, ce ne sont pas des mathématiques purement belges, mais ce sont les Belges qui ont apporté à la Chine cette connaissance dont les Chinois vont évidemment se servir pour tout simplement leurs besoins d'astronomes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce ne sera pas verbiste évidemment, c'est que les Chinois vont de nouveau recevoir des Belges un peu plus tard, aux alentours de l'an 1900. Et à ce moment-là, il n'y a pas que des Belges en Chine, tous les grands pays européens sont européens et même occidentaux sont en Chine. Il y a des Américains en Chine, il y a des Anglais, des Français, des Allemands, des Belges. Mais les Belges sont évidemment un petit pays politiquement et militairement par rapport à la France de l'époque ou à l'Allemagne de l'époque. Et le gouvernement chinois a l'intention de construire un chemin de fer. La modernité en 1900, c'est le chemin de fer. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est peut-être Internet, mais à l'époque, c'est le chemin de fer. Et c'est effectivement des Belges, des ingénieurs belges, qui vont être envoyés en Chine pour leur apporter la technologie occidentale dans le domaine non seulement du chemin de fer, mais évidemment de tout ce qui va autour, de tout ce qui va avec, pour le dire un peu vulgairement, c'est-à-dire la construction mécanique, c'est-à-dire la sidérurgie, c'est-à-dire la production de toute une technologie. Et aujourd'hui, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que si les Chinois produisent des choses qu'ils essayent de nous vendre, c'est peut-être un peu à cause de ces Belges de 1900 qui ont apporté les nouvelles technologies de l'époque à la Chine. Bon. Faut pas exagérer, vous m'avez compris. Si les Belges n'en avaient pas fait, ça aurait été les Anglais ou les Français, bien entendu, ou les Allemands. Il y avait des Allemands qui étaient très actifs au Japon à cette époque-là. Ce sont les Allemands qui ont industrialisé le Japon. Mais enfin, le fait est là que c'est la Belgique qui peut dire, voilà, nous avons deux fois appris la science et la technique aux Chinois, ce qui n'est quand même pas mal. Puisque j'emploie le chiffre 2 qui est un peu symbolique, le 1 et le 2, eh bien, je me dis souvent, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais ce n'est pas du nationalisme, mais c'est une constatation, je me dis souvent, dans le fond, enfin, je me disais ça au XXe siècle. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe, ça a peut-être un peu changé, mais au XXe siècle, je me disais, les deux instruments qu'on utilise le plus souvent, qu'on a le plus souvent utilisés au XXe siècle, des instruments qu'on a utilisés dans le monde entier, sont inventés par des Belges. Et même plus précisément par des Wallons, pas de raison de ne pas le signaler, c'est évidemment le saxophone. Vous savez certainement tous que le saxophone a été inventé par un Dinantais, Adolphe Sax. C'est quand même un instrument qu'on utilise beaucoup et qui a révolutionné la musique. Le jazz est en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie dû au saxophone. Le deuxième instrument qu'on a utilisé peut-être encore un peu plus, et à mon avis un peu trop, c'est une invention d'un liégeois qui s'appelait Toussaint Fafchamp, et c'est la mitrailleuse. Donc, mitrailleuse et saxophone, de gloire technique ou technologique de la Belgique. Évidemment, il n'y a pas que cela. Il y a, comme je l'ai dit, le chemin de fer en Chine, on pourrait dire le chemin de fer ailleurs, parce que à la fin du XIXe siècle, la Belgique a exporté du matériel ferroviaire dans le monde entier, en Amérique du Sud, bien sûr en Afrique centrale, au Congo, qui n'était pas encore le Congo belge, mais qui allait le devenir, et où on a installé des chemins de fer dans des conditions extrêmement difficiles. Mais la Belgique, c'est aussi, plus fondamentalement peut-être, parce que la mitrailleuse et le saxophone, c'est très important, et en même temps, ce n'est pas aussi important que ce que je vais dire maintenant, c'est, et ça, tout le monde le sait, Zénobgramme, c'est-à-dire l'électrotechnique, Zénobgramme en 1869 met au point une machine, il y avait déjà des machines, mais qui n'étaient pas satisfaisantes, mais il met au point une machine tournante qui permet, à partir d'une machine à vapeur, de produire du courant électrique continu. Et c'est ce qui va permettre le développement, un certain Siemens va venir très vite, un Allemand, Siemens va venir très vite, des Français vont arriver également, et c'est ce qui va permettre le développement de l'électrotechnique, de l'électricité industrielle, qui est bien quelque chose de fondamental au XXe siècle et encore au XXIe. À quoi pouvait bien servir l'ampoule de Crookes? Mais on a évidemment tout de suite compris que si on avait la possibilité de photographier les os d'un être vivant, et notamment d'un homme ou d'une femme, on allait faire des progrès sensationnels dans le domaine médical. Donc les médecins ont immédiatement compris, et il n'a pas fallu des semaines pour que des médecins achètent des tubes de Crookes, fabriquent des rayons qu'on va appeler les rayons X, parce qu'on ne savait pas de quelle nature ils étaient, et que ainsi la médecine va pouvoir se développer. Mais l'étude des rayons X va être très difficile, et c'est l'étude des rayons X qui va permettre... Donc l'étude des rayons X a permis un développement technique très important dans le domaine médical, mais va permettre aussi de donner au laboratoire des instruments d'investigation qui permettront aux physiciens et aux chimistes de comprendre la structure des molécules d'abord, la structure des atomes ensuite, et finalement, en 1953, on utilise les rayons X pour comprendre, pour déterminer, pour trouver la structure d'une molécule extraordinaire qui est l'acide désoxyribonucléique, le fameux ADN, qui est la molécule dont on se rend compte à ce moment-là qu'elle est la molécule explicative de ce phénomène qui a préoccupé les gens depuis toujours, qui est la vie. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit développement particulier. J'ai un de mes livres qui s'intitule « La vie expliquée par la chimie ». C'est un petit peu provocateur, mais c'est la situation actuelle de la science que j'appellerais standard. Pour la science aujourd'hui, la chimie explique la vie, c'est-à-dire que les différents mécanismes caractéristiques des êtres vivants, la croissance, l'assimilation, la reproduction, l'hérédité, l'évolution, la mobilité, la sensibilité, mobilité et sensibilité pour les êtres vivants supérieurs, les animaux, eh bien tout cela est expliqué par des réactions chimiques. Voilà. Je pourrais encore en dire un peu, mais j'ai envie de boire un petit coup et j'ai envie d'écouter vos questions pour essayer d'y répondre.